des apôtres, Actes des apôtres, chapitre 2, et nous allons voir juste deux versets, le verset 41 et 42. Donc, nous avons ce passage merveilleux dans la Bible qui montrait comment fonctionnait le premier rassemblée à Jérusalem. Et nous lisons ceci dans le verset 41 et 42. Ceux qui acceptèrent sa parole, parole de qui? Parole de l'apôtre Pierre, qui a prêché envers des foules de juifs qui sont réunis à Jérusalem à ce moment-là. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentant d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement, ou dans d'autres versions, la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans ces deux versets, nous pouvons constater les sept traits caractéristiques d'une assemblée, je dirais, locale, biblique. Et on pourrait dire que c'est le modèle qui est valable pour toute époque, non seulement en ce moment-là, mais tout au cours de l'histoire de l'Église. Il y a sept choses à relever qui caractérisent cette Église. D'abord, il y a le salut. Est-ce que vous le remarquez? Ceux qui acceptaient sa parole suite à une prédication concernant le Messie, Jésus-Christ, qui est venu souffrir en tant que substitut pour régler la pénalité du péché, notre péché. Le salut, ceux qui acceptèrent sa parole. Nous voyons que c'est ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. On voyait le baptême ici par immersion. Et on lit en ce jour-là le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Donc ils sont reçus dans l'assemblée, c'est la réception dans l'assemblée locale de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils font? Il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, on voit l'enseignement, la place importante de la doctrine de Christ auquel ils ont persévéré. Et dans la communion fraternelle, nous voyons la communion fraternelle, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et certainement dans la prière. On peut constater que les trois premiers traits qui caractérisent cette assemblée, à savoir le salut, le baptême et la réception dans l'assemblée, ils ont une chose commune qui n'arrive qu'une seule fois dans la vie d'un croyant. Vous n'êtes pas sauvé deux fois, trois fois, vous êtes sauvé une fois pour toutes. Le baptême, vous n'allez pas vous baptiser toutes les fois. Normalement, selon la Bible, vous faites baptiser une seule fois dans votre vie. Et il en est ainsi de le dessein de Dieu pour l'assemblée que vous choisirez. Vous restez jusqu'à la fin de votre vie. Donc c'est quelque chose qui se passe une fois dans la vie des chrétiens, ces trois premiers traits caractéristiques de cette Église. Par contre, vous remarquez la persévérance dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière, ça n'arrive pas qu'une seule fois, c'est à renouveler continuellement. Et c'est ce que nous faisons ici dans cette assemblée aussi. C'est quelque chose que chaque croyant dans une assemblée doit vivre continuellement. Mais ce matin, nous allons nous intéresser uniquement à un de ces traits de caractère. Persévérer dans l'enseignement ou la doctrine des apôtres. Nous allons regarder cela de près. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, pour pouvoir cerner ce que cela veut dire, nous allons ce matin d'abord voir que signifie une doctrine. Après, en deuxième lieu, nous allons voir quelle est la substance ou le contenu de la doctrine des apôtres. En troisième lieu, nous allons voir l'importance de la doctrine des apôtres. Et il nous est dit dans ce verset qu'il persévérait dans cela et la persévérance dans la doctrine des apôtres. Voilà les points pour mieux cerner ce verset, ce trait caractéristique de cette assemblée. Quel est le sens du mot doctrine? Ce mot donc vient du grec, qui est didache ou didaskalia. Quand on parle de doctrine, à l'origine, donc ces mots grecs, ils peuvent désigner soit l'acte d'enseignement. Comment vous enseignez, c'est l'acte d'enseignement, ou bien ce mot, selon le contexte, veut dire aussi la doctrine enseignée. Donc il faut toujours avoir à l'esprit, c'est le contexte qui va définir. Donc, l'acte d'enseignement, soit la doctrine enseignée. Et je vous donne un exemple ici, dans 1 Timothée 4, 13. Ici, il est dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. C'est le grec didaskalia. À votre avis, est-ce que c'est la doctrine enseignée qui est en vue ici, ou est-ce que c'est l'acte d'enseigner? Il me semble que c'est très clair que dans ce passage, le didaskalia souligne l'acte d'enseignement. Un autre exemple, dans Matthieu 15, 19, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes. Et les préceptes, c'est le grec didaskalia, qui sont des commandements d'homme. Ici, il est clair, d'après le contexte, que c'est la doctrine enseignée qui est soulignée. Et le verset dit même, quelle est la source de cette doctrine? C'est l'homme. Cette doctrine a sa source dans la pensée de l'homme. Un troisième exemple, Marc 11, 18, les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu, en parlant de Jésus-Christ, cherchaient les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine, didaché. Ici, c'est pas clair. Est-ce qu'ils étaient frappés de la manière il a enseigné, ou est-ce que par le contenu de son enseignement? La chose est claire que dans ce passage, il est à la fois vrai pour l'acte d'enseignement. Le Seigneur a une manière d'enseigner qui frappe les gens, mais surtout aussi sur le contenu de ce qu'il enseigne. Nous allons maintenant passer au deuxième point par rapport à ce que nous avons défini tout à l'heure. Quel est le contenu de la doctrine des apôtres? Quel est le contenu ou quels sont les contenus de la doctrine des apôtres? Vous vous rappelez que les apôtres, à l'époque, n'avaient pas le Nouveau Testament comme nous l'avons aujourd'hui. Et rappelez-vous la grande commission que Jésus donnait à ses disciples dans Matthieu 28, 20. Je vous invite à chercher ce passage, si vous avez votre Bible devant vous. Cette grande commission, il nous est dit, je commence par le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc la doctrine des apôtres, comprenez tout ce que le Seigneur Jésus-Christ leur a appris pendant qu'ils étaient avec lui pendant son ministère. Dans Jean 14, 26 aussi, le Seigneur leur disait concernant son prochain départ, dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur de l'Esprit Saint, que le Père enverra, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit était maintenant arrivé, nous sommes dans Actes, chapitre 2, pour rappeler avec clarté aux apôtres les paroles du Seigneur, afin qu'il les enseigne aux nouveaux croyants, les sauvés, ajoutés aux membres de l'Église, qui étaient les 3000 âmes, nous venons de lire tout à l'heure. Et dans ce même verset, il est dit qu'il allait leur enseigner toutes choses, c'est-à-dire qu'il leur enseignait des choses nouvelles que le Seigneur ne leur avait pas communiquées pendant son ministère. Parce qu'au fur et à mesure que l'œuvre grandissait, il y avait des nouveaux besoins. Rappelez-vous, dans Actes, chapitre 6, où il fallait instaurer les diacres pour subvenir aux besoins, s'occuper des besoins matériels, pour que les apôtres puissent se consacrer à enseigner et à prêcher la parole de Dieu. Et dans Jean 16, 13, l'Esprit de vérité annoncera aussi aux apôtres les choses à venir. Les choses à venir. Peut-être ce matin, parmi vous, vous vous demandez, mais où sont les apôtres aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a encore des apôtres? Selon Éphésiens chapitre 2, verset 20, non, il n'y a plus des apôtres. Ils étaient là avec les prophètes pour fonder l'Église par leur enseignement qui n'était autre que la doctrine de Christ. Cependant, ce que les apôtres ont enseigné oralement nous est donné par écrit dans tout le Nouveau Testament. Donc, quelle est la substance des doctrines des apôtres d'après ces quelques versets que nous venons de voir? On peut le résumer ainsi. Dans les quatre évangiles, nous avons ce que le Seigneur a enseigné et que l'Esprit Saint a rappelé aux apôtres. Jean 14, 26, que nous venons de lire. Les quatre évangiles nous montrent ce que le Seigneur a enseigné et que l'Esprit Saint a rappelé aux apôtres. Dans les épîtres, nous avons toutes choses enseignées par l'Esprit de vérité. Et dans l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, nous avons les choses à venir que l'Esprit a révélées. Nous avons une exhortation là-dessus tout à l'heure avant de commencer le culte. Donc, on peut dire que nous avons entre nos mains la doctrine apostolique au complet dans tout le Nouveau Testament qui forme un tout. Mais je vous ai dit que la doctrine conseillée des apôtres dès le début de l'Église était la doctrine de Christ. Regardez 2 Jean chapitre 9 verset 10. Regardez avec moi 2 Jean 9 10. Les doctrines des apôtres n'est rien d'autre que celle de Christ. Versets 9 et 10. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le dites pas « Salut ». Vous voyez, les doctrines des apôtres n'est rien d'autre que les doctrines de Christ. Et combien il était dit l'importance de demeurer dans cette doctrine et de se séparer de ceux qui ne pratiquent pas cette doctrine. Mais la doctrine des apôtres n'aurait aucune autorité si elle n'avait pas en même temps celle de Christ. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le contenu de l'enseignement des apôtres est en relation étroite avec la personne de Jésus-Christ. Donc ça c'est très important. Ce qui constitue la doctrine, c'est non seulement le contenu de l'enseignement qui est présenté aux croyants, mais surtout la relation évidente entre ce contenu et la personne de Jésus-Christ. Très important. Parce que vous savez, si vous regardez l'histoire de l'Église, il y a d'autres autorités qui étaient mises par l'homme. Ce n'est plus l'autorité de Jésus-Christ sur l'Église, mais on avait vu l'autorité de la tradition. Jusqu'à présent, l'autorité ecclésiastique sous diverses formes, les synodes, les papes et tout le reste. Le temps nous manque ce matin, mais je voudrais juste faire une liste exhaustive des doctrines qui étaient enseignées par les apôtres. Et je vous énumère sur le tableau l'inspiration des Écritures. Ça, c'est dans 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Est-ce que vous avez fait cette expérience, quand vous êtes jeune, été enfant, curieux, sur une vitre qui est givrée, imaginez que vous êtes en hiver, vitre givrée, vous soufflez dessus, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir une empreinte de votre souffle, n'est-ce pas? C'est exactement la traduction du mot grec ici, traduit par « inspirer », c'est le souffle de Dieu. Donc, l'empreinte exacte de ce que Dieu a dit, c'est quoi? C'est sa parole. C'est sa parole qui est l'empreinte exacte de ce qu'il a dit. C'est comme vous vous soufflez donc sur une vitre givrée, vous avez l'empreinte de votre souffle qui est sur le verre. Je peux mentionner aussi la déité de Christ. Christ est Dieu. La naissance virginale de Christ, dans Matthieu 1, 20. L'expiation par la mort de Christ, le problème du péché qui séparait l'homme de Dieu, a été résolu par Dieu lui-même en envoyant son Fils pour mourir sur la croix en tant que victime pour, à notre place, pour ôter et pour régler une fois pour toutes le problème du péché fondamental. La résurrection de Jésus-Christ, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre réunion ce matin même n'a aucun sens. Mais c'est important cette doctrine, c'est la base même aussi de notre résurrection corporelle à venir. La deuxième venue de Christ, Christ est venu pour une première fois en tant qu'un Messie souffrant, mais viendra et nous attendons cet avènement où il va revenir cette fois-ci en tant que Messie triomphant. Il va juger le monde. La doctrine enseignée par les apôtres, la ruine de l'homme. L'homme n'est pas bon comme certains le conçoivent. L'homme est dépravé, corrompu par le péché. En lui-même, il ne peut pas s'approcher de Dieu. Il faut qu'il a besoin d'un intermédiaire. Jésus-Christ, le sauveur que Dieu a envoyé pour réconcilier l'homme pécheur avec lui par la foi en Jésus-Christ. La nouvelle naissance, quand vous mettez votre confiance, votre foi en la personne de Jésus-Christ en tant que votre Seigneur et Sauveur, la Bible déclare que vous êtes une nouvelle création. Une nouvelle création. La Bible parle de la nouvelle naissance. Et quand vous êtes sauvé, vous pouvez chuter, ça arrive encore, mais la Bible donne la sécurité que Dieu nous sauvegarde, Dieu nous garde jusqu'à bon port. C'est très important. La doctrine de la Trinité, un seul Dieu en trois personnes, ça nous dépasse, mais la Bible l'enseigne très bien. La Bible parle aussi des doctrines qu'il ne faut pas ignorer. Vous regardez dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Ça, c'est la question que posaient des croyants dans cette église. Mais que deviennent les morts en Christ? Où sont-ils? Et l'apôtre dit ici, il ne faut pas ignorer pour ceux qui sont morts en Christ. Ces doctrines, où vont-ils leur âme? 1 Corinthiens 12, 1, pour ce qui concerne des dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance, il ne faut pas ignorer. Dieu a donné des dons pour l'Église, son corps. Romains 11, 25, je ne veux pas faire que vous ignorez ce mystère. Quel mystère? Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés. Nous en sommes dans cette époque. Les Juifs, peuple élu de Dieu, ont rejeté le Messie. Ils l'ont crucifié. Ils sont tournés contre lui et rejetés le Messie que Dieu a envoyé pour être leur sauveur. Et à cause de cet endurcissement, de ce rejet, Dieu accomplit son dessein conçu depuis toute éternité pour les païens que nous sommes, non-juifs. Et nous sommes dans l'époque où nous pouvons entrer et faire partie du corps de Christ. Et c'est ce mystère que l'apôtre Paul rappelle, il ne faut pas l'ignorer. Dieu nous fait grâce. À cause du rejet des juifs, nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu et faire partie du corps de Christ. 1 Corinthiens 10:1, frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Pour dire quoi? Dans ce contexte, c'est pour dire tout simplement que le peuple juif a été tous sous les bénédictions du Seigneur, mais il y en a ceux qui se sont révoltés et murmurés contre lui. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, va donner la leçon. Attention, tirez instruction de leur attitude. Ne murmurez pas contre Dieu dans la manière qui vous conduisent dans votre propre vie. C'est la leçon. 1 Jean 5:5, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez, il ne dit pas que vous avez la vie éternelle au moment où vous avez cru dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est clair. Et ici, ce verset rappelle de la certitude que nous devons avoir concernant cette sécurité. Nous avons la vie éternelle quand vous nous croyons au Fils de Dieu. J'espère que c'est le cas pour vous ce matin. Si ce n'est pas le cas, réfléchissez tout simplement que par vos propres mérites, vous ne pouvez pas demander la faveur de Dieu pour qu'il vous accorde à rentrer dans sa présence. Impossible. Le Dieu saint ne peut pas tolérer le péché, un pécheur devant sa présence. Mais il vous donne le moyen de vous approcher de lui, parce qu'il s'est approché de vous par Jésus-Christ qui est venu sur terre pour être le substitut à votre place, payer la pénalité du péché. Et si vous mettez votre confiance et votre foi dans ce que Jésus-Christ a fait pour régler ce problème du péché qui vous sépare de Dieu, vous pouvez avoir la certitude à un enfant de Dieu. Vous, l'importance de l'enseignement des apôtres est tellement si important et il y a trois aspects. Pourquoi la doctrine, l'enseignement des apôtres est tellement si important et il fallait y persévérer? Pourquoi la doctrine, l'enseignement des apôtres est tellement si important et il fallait y persévérer? Nous allons voir que l'enseignement des apôtres est tellement si important et il fallait y persévérer. Nous allons voir que c'est tellement important parce que dans la Bible, la doctrine est intimement liée avec la Bible, l'Écriture. Ça, c'est le premier point que nous allons voir. Deuxième point, la doctrine est intimement liée avec la vie pratique. Et en troisième point, la doctrine est intimement associée à l'éthique, à notre conduite, à notre manière de vivre. Donc, nous allons voir, premièrement, le lien entre la doctrine et l'Écriture. Tournez-vous, donc, votre Bible dans 2 Timothée 3, j'ai fait allusion tout à l'heure, 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. J'aimerais que vous le regardiez avec moi, 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Donc, on va voir le lien entre la doctrine et l'écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est l'illustration que j'ai donnée tout à l'heure. Et le souffle de Dieu. Donc, nous avons dit que l'impact ou bien la trace de souffle de Dieu, c'est la Bible. Comme nous soufflons dans une vitre à givrer, Donc, nous avons illustré cela et l'Écriture est ainsi le souffle de Dieu. Et qu'est-ce qu'il est dit? Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous pouvons souligner quelques points à travers ces versets, c'est que l'Écriture est utile pour modeler nos pensées. Quand on dit utile pour enseigner, pour convaincre, donc il est très utile pour modeler nos pensées, pour enseigner la vérité et réfuter l'erreur. Vous voyez? L'Écriture est utile aussi pour modeler non seulement nos pensées, mais aussi nos actions. C'est-à-dire pour nous redresser ce qui ne va pas et pour nous indiquer le droit chemin. Donc l'Écriture est utile pour modeler nos pensées, utile pour modeler nos actions. Et nous voyons aussi que l'Écriture est utile pour instruire le peuple de Dieu, pour veiller à son instruction, donc jusqu'à ce qu'il soit un homme de Dieu accompli, accompli dans le sens bien équipé, pour être propre à toute bonne œuvre. Vous allez dire, mais quelque chose de frappant ici, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Quel est le but de tout ce que l'Écriture fait dans le domaine de l'enseignement, ici, dans la correction, dans l'instruction, afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le résultat n'est pas théorique, mais le résultat c'est pratique, utile pour toute bonne œuvre. Donc vous voyez le lien entre l'Écriture et la doctrine. Et le résultat est très important, remarquez que ce n'est pas théorique du tout, mais c'est pratique. Et c'est pour cela que dans une église, il est nécessaire, il est important et indispensable que la doctrine de Christ soit enseignée. Donc j'espère que juste ce verset vous convainc de l'utilité de l'Écriture pour modeler nos pensées. Une fois que notre pensée soit modelée, nous pouvons rejeter les mensonges auxquels nous croyons jusqu'à présent et croire à ce que Dieu dit et vivre selon ce qu'il dit. Deuxième point, le lien qu'on a est important, la doctrine des apôtres, parce qu'il y a un lien entre la doctrine et la vie. J'aimerais juste que vous tourniez aussi votre Bible dans Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Et on aurait pu lire tout le chapitre. Mais j'aurais aimé juste m'arrêter sur quelques versets. Et vous faites bien le lien ici entre la doctrine et ma vie pratique. Verset 1, Tite, chapitre 2. Pour toi, dis les choses qui sont conformes. Conformes à quoi? À la saine doctrine. Et à partir de maintenant, donc, Paul va rappeler à Tite de dire aux chrétiens comment ils doivent se conduire en tant que chrétiens. Et il va s'adresser à différentes catégories de personnes qui composent l'assemblée locale. Et vous allez voir qui va s'adresser d'abord aux hommes âgés, les vieillards dans l'église. Il va s'adresser après aux femmes âgées. Il va s'adresser après aux jeunes femmes. Et il va s'adresser aussi aux jeunes gens. Comment ils doivent se comporter en tant que peuple de Dieu. Donc vous voyez, c'est très lié la doctrine et la vie. Et nous allons regarder juste le verset 2. Quand Paul rappelle la Tite de dire en conformité avec la saine doctrine comment les veillards doivent se comporter. Il nous est dit que les veillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, fins dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Je m'arrête là. Vous aurez pu regarder aussi concernant les femmes âgées, juste le verset 3 et la suite. Mais pour vous convaincre que la parole de Dieu le fasse dans votre cœur, combien c'est intimement lié la sainte doctrine et la vie. Il leur demande ici donc que si les hommes âgés dans l'église veulent avoir un impact, une influence positive pour les autres, ils doivent se comporter et avoir les traits de caractère qui sont mentionnés ici, à savoir quoi? Sobre. Littéralement, le mot traduit par sobre dans le grec souligne l'idée de s'abstenir du vin. Sentez l'idée, vous l'avez dit d'ailleurs, le lien, mais le mot à l'origine, vous pouvez vérifier, l'idée littéralement, c'est s'abstenir du vin. Pourquoi? Parce que on souhaite trouver chez ces personnes âgées, ces hommes, une pleine possession de leur faculté de réflexion. On veut trouver chez ces hommes âgés la sagesse, la raison. Et ça doit se traduire dans leurs paroles, dans leurs actions. Donc vous voyez, la sobriété sobre, c'est important pour qu'ils puissent avoir un impact et une influence sur les autres qui trouvent une pleine possession de leur faculté de réflexion, de parole et d'action. En plus, il leur recommande d'être honnête, dans d'autres traductions, respectable. Ici, ce qui est souligné, c'est la dignité de l'attitude qui va inspirer la considération et le respect. Il leur demande d'être modéré. Où le sens du mot ici, à l'origine, c'est sensé, être sensé. Ça veut dire quoi? Ça exprime l'idée d'un esprit équilibré, dans le sens qu'ils doivent avoir un caractère plein de prudence, mais en même temps plein de discernement. Combien, non seulement les personnes âgées, mais nous en tant que jeunes aussi, vous aussi, nous avons besoin de ces traits de caractère dans la vie. Je parle non seulement la vie comme on qualifie toujours de spirituel, mais dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas de vie de tous les jours et de vie spirituelle. La vie tout court, quand vous êtes au Seigneur, c'est lui l'autorité de votre vie. Votre vie doit être remplie de ses traits de caractère et ça doit rayonner, vu par les autres. Fin dans la foi. Et ce qui est intéressant, est-ce que vous faites le lien entre la verset 1, saine doctrine, et fin dans la foi? Le même mot, le même mot revient. Et à l'origine, le mot même ici signifie salubre, hygiénique. Vous voyez, une doctrine salubre produit une foi en bonne santé. L'image ici, c'est que comme il en est de l'alimentation, quand vous mangez correctement, d'une manière équilibrée, eh bien, ça favorise à ce que vous ayez une bonne santé physique. Il en est de même de la doctrine. Quand vous avez une doctrine salubre, hygiénique, vous avez une bonne santé spirituelle. Et ça se traduit comment? Il va viser dans la foi. Et ces veillards, donc, on doit voir dans leur vie la fermeté, leur fermeté dans la foi. Les jeunes, les autres, voient dans leur vie ce que c'est vivre par la foi. Vous voyez? Et cette bonne santé se traduit aussi dans leur amour. On dit toujours quand on est âgé, on est grincheux, capricieux. Mais ce que la Bible montre ici, que dans ces personnes âgées, on doit avoir un amour patient, non exigeant, ni âpre, mais patient, doux. Vous voyez? Et on doit voir chez ces personnes âgées la patience. Et le mot ici souligne la constance avec laquelle les chrétiens endurent les épreuves et les tribulations sans perdre confiance. Et c'est bien approprié, n'est-ce pas? Parce que par rapport au lot de ces hommes âgés, de ces personnes âgées, parce que la vieillesse amène l'infirmité, la vieillesse amène la solitude, qui devient de plus en plus croissante, pesante. Et Paul exhorte à Timothée de dire à ces personnes qui deviennent patients. Par rapport à ces circonstances, il veut voir dans la vie de ces personnes âgées le trait de caractère d'une foi sincère, d'une foi ferme, d'une vie de foi. Il veut voir un amour pour les autres grandissant, malgré que l'âge, on peut devenir grincheux, capricieux. Il veut voir la patience dans leur vie, un exemple de patience. Dans les infirmités même, dans les désenchantements de la vie, dans les épreuves. Combien il est important de souligner cela, que la doctrine est intimement liée à la vie. Et j'aimerais juste vous rappeler rapidement que quand vous lisez les épîtres, on voit ce lien étroit entre la doctrine et la vie. Vous lisez l'épître aux Romains, par exemple, du chapitre 1 au chapitre 11, vous avez tout le développement doctrinal bien systématisé. Et à partir du chapitre 12 jusqu'à 15, vous voyez la vie pratique qui découle de ces enseignements, de ces doctrines. On peut citer aussi l'épître aux Galates. La doctrine est développée du chapitre 1 au chapitre 4. Et après, la vie pratique qui en découle est relatée dans le chapitre 5 et chapitre 6. Donc vous voyez, c'est intimement lié. Vous pouvez lire la même chose, l'épître aux Éphésiens, du chapitre 1 au chapitre 3, le développement de la doctrine. Et à partir du chapitre 4 à verset 6, chapitre 6, vous voyez la vie qui en découle basée sur cette doctrine. On peut faire la même chose avec l'épître de Pierre, par exemple le premier épître. Du chapitre 1, par exemple, verset 1 à 12, c'est l'enseignement doctrinal. Et du chapitre 1, verset 13 à 2, 25 par exemple, vous voyez la vie pratique qui découle de cet enseignement, de cette doctrine. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Ce qu'on peut en conclure, donc, c'est qu'il est très important dans chacune de nos assemblées que la bonne doctrine, la saine, celle de Christ, soit enseignée pour que notre conduite y soit conforme pour la gloire de Dieu, pour que notre foi soit saine, salubre et en bonne santé. Et pour terminer, nous allons voir le quatrième point, persévérer dans la doctrine des apôtres. Nous avons vu donc qu'est-ce que signifie le mot doctrine. Nous avons vu l'importance de cette doctrine. Et nous avons vu, nous allons voir maintenant la persévérance dans la doctrine des apôtres. Donc, pourquoi persévérer? Nous devrions persévérer tout simplement parce que dans le monde où nous vivons, il y a des erreurs qui se propagent. Des enseignements qui sont faux, ce qui n'est pas du Seigneur. Et combien nous devrions y être fermes. Et c'est l'attitude que la Bible demande, et c'est ce que faisaient ces premiers chrétiens. Mais demandons-nous d'abord, qu'est-ce que ça veut dire persévérer? Persévérer veut dire tout simplement persister, demeurer ferme et constant dans une décision, une action entreprise. Et c'est là ce qui caractérisait ces premiers chrétiens. Ils continuaient avec ténacité dans l'observation de ce que les apôtres enseignaient. Ils avaient reconnu l'autorité de leur enseignement et ils s'y soumettaient de bon cœur. J'aimerais citer juste Romains 6, verset 17, quand Paul s'adresse à l'église de Rome. Il leur dit, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Qu'est-ce que l'image que l'apôtre Paul est en train de donner ici et que le Saint-Esprit nous montre? Tout simplement, c'est que le Saint-Esprit utilise ce passage comme celle d'un moule dans lequel on verse le métal pour le fondre et pour qu'il prenne forme avec le moule. Donc il en est de même ici aussi, quand nous obéissons à la sainte doctrine, c'est que notre pensée devienne conforme à la sainte doctrine, et nous avons une solide conviction, et notre conduite en découle, conforme à cette moule qui est la doctrine enseignée. Donc ces premiers chrétiens sont un modèle pour nous aujourd'hui aussi. Avant leur vie, ils étaient esclaves, liés, n'ont pas la possibilité ni la liberté de faire ce que Dieu demande. Mais une fois affranchis du péché, ils ont obéi de cœur, mais tout leur cœur, totalement à la règle de doctrine auquel ils étaient enseignés. Et nous devrions faire pareil. Combien de temps vous avez entendu prêcher la parole de Dieu? Combien de temps Dieu vous interpelle peut-être sur certains points dans votre vie? Avez-vous obéi comme il doit être? Et chacun de nous doit penser et réfléchir à cela, de obéir. Non seulement écouter, mais obéir. Et c'est ainsi que nous pouvons être bénis du Seigneur dans nos propres vies même. Persévérer dans la sainte doctrine n'est pas une option, mais une nécessité, c'est vital pour chaque croyant, pour chaque église. Et nous devrions persévérer dans la doctrine de Dieu notre Sauveur, Tite 2.10. Parce que les doctrines qu'enseignaient les apôtres, nous venons de le voir auparavant, c'est la doctrine de Christ, la doctrine de Dieu notre Sauveur. Nous devrions persévérer donc dans la doctrine de Christ, 2 Jean 9.10. Dans la doctrine du Seigneur, Actes 13.12. Dans la pure doctrine, Tite 2.7, et aussi dans la sainte doctrine, 1 Timothée 1.10 et 2 Timothée 4.3. Pourquoi, aussi dans la bonne doctrine, pourquoi nous avons dit qu'il y a des dangers? Il y a des dangers, et ces dangers existaient déjà au 1er siècle pour les églises. Il y avait des erreurs, et on parlait des doctrines vaines. Et cette vanité était quand même mal dont souffraient déjà les églises du 1er siècle. Nous avons entendu et nous savons, d'après la Bible, qu'il était enseigné des questions sur les généalogies. Il était question des cultes des anges. Il était question des contes profanes et absurdes. Et des disputes relatives à la loi. Ça, c'était des enseignements qui gangrenaient et qui menaçait l'Église au 1er siècle. Mais, croyez-le, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas exempts aujourd'hui aussi de ces erreurs. C'est pour cela qu'il faut demeurer, persévérer dans la doctrine de Christ. Vous vous dites, mais j'ai pas été à l'institut biblique, ni dans une école biblique, et pour moi ça me dépasse, comment je peux savoir si c'est une erreur ce qu'on m'enseigne, ou est-ce que c'est la vérité? Vous savez, il y avait quelque chose qui m'a frappé d'une réalité, un exemple réel, où il y avait dans un endroit, on m'avait raconté cette histoire, un monsieur qui est un épicier, qui passait tout son temps à apprendre à déceler les faux biais du vrai. Mais pour faire cela, avec ses mains, il peut directement savoir si c'est le biais est vrai ou faux. À force qu'il étudie, à force qu'il fait l'expérience avec les bons, les vrais biais, il peut déceler facilement le faux. Et il en est de même de cet exemple. Ce que je voulais dire tout simplement aussi, c'est que quand nous sommes constants dans la lecture et à l'écoute de l'Esprit de Dieu, quand nous lisons l'enseignement qui est donné, nous sommes imprégnés de ces vérités et ça modèle nos pensées, ça modèle nos vies, ça modèle nos actions comme nous avons rappelé tout à l'heure. Et c'est facile pour nous de détecter le faux du vrai. Comme cet homme détectait le faux biais du vrai parce qu'il a passé tout son temps à étudier les vrais biais. Je voudrais terminer par cette exhortation de Colossiens 3, verset 16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Est-ce que la parole de Dieu a élu domicile dans votre cœur? Avez-vous le temps de la lire chaque jour, dans votre semaine? Ou vous la lisez de temps en temps? Il n'élit pas domicile en vous, mais de temps en temps, vous prenez la Bible comme ça. Que la parole de Christ demeure, fasse domicile en nous. Et c'est comme cela que nous allons découvrir toute sa richesse. toute sa richesse. Comme le psalmiste disait, béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Nous devons avoir cette attitude de vouloir être enseigné à l'école du Seigneur. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. La parole de Dieu est efficace dans tous les domaines de la vie. Vous voulez avoir une raison saine, vous voulez avoir un bon discernement, vous voulez avoir une intelligence spirituelle. Lisez la parole de Dieu et dans une attitude de prière, enseigne-moi le bon sens, enseigne-moi l'intelligence comme faisait ce psalmiste. Et je dirais que c'est le summum de la vie d'un chrétien, vide d'une église, enseigne-moi à faire ce qui te plaît. Mais où je trouve ce qui plaît au Seigneur, c'est dans sa parole. C'est pour cela que nous devrions demeurer, persévérer dans l'enseignement des apôtres, qui n'est rien d'autre que l'enseignement de Christ qui nous est donné tout entier dans la Bible. Prions le Seigneur, notre Dieu.